Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, merci beaucoup à l'Académie MEDEF, Céline, pour l'organisation et puis pour cette opportunité de mettre en lumière une thématique sur la transition énergétique. Donc, je suis chargée de mission au sein du pôle transition écologique et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenants. Donc, en premier, qui prendra la parole dans un instant, Oussama Haned de l'Union française de l'électricité pour nous présenter le contexte de l'autoconsommation énergétique. On aura en second lieu Stéphane Loulia de l'ADEME pour nous présenter les bonnes pratiques lorsqu'on est une entreprise pour envisager un projet d'autoconsommation. Et puis, on a le plaisir d'accueillir également David Gréau, qui est le délégué général en charge du solaire au sein de Enerplan. Donc, l'autoconsommation, on sait que c'est un sujet qui nous intéresse au sein du MEDEF, de nos instances, qui est traité au sein de notre commission énergie, du comité énergie-compétitivité, parce qu'il c'est un enjeu important pour la transition énergétique et pour les entreprises, donc en termes de prix, d'approvisionnement énergétique, de décarbonation, électrification ou encore en termes d'enjeux réseau. Que l'on soit en tant qu'entreprise volontairement intéressée par les projets d'autoconsommation ou qu'on l'on y soit obligé, c'est un sujet qui monte. Et je laisse tout de suite la parole à Oussama.
Merci Myriam, bonjour à tous. Peut-être très rapidement représenter l'UFE, l'Union française de l'électricité. C'est une fédération professionnelle qui regroupe des acteurs du système électrique. Donc on a des producteurs, des gestionnaires de réseaux, des fournisseurs d'électricité et de services. Et on travaille à Paris et à Bruxelles pour faire avancer la voie de l'électricité dans le système énergétique. S'agissant précisément de notre sujet d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'autoconsommation, notamment pour les ménages. Hein, on parle des panneaux qu'on pose sur la toiture. Concrètement, ce que c'est l'autoconsommation, c'est le fait de consommer l'énergie qu'on produit soi-même. Donc pour une entreprise, ça va être acquérir, installer des moyens de production sur son site et consommer l'énergie qui en est issue. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'électricité, en particulier d'autoconsommation solaire. Mais il faut savoir que ça peut concerner plusieurs types d'énergie, l'autoconsommation. Et ce que je vais vous proposer, c'est tout d'abord de rentrer un peu plus en détail dans la définition sur le cadre juridique de l'autoconsommation individuelle, puis de reprendre un peu de hauteur pour reparler du contexte de développement de l'autoconsommation, le contexte dans lequel on s'inscrit, qui est celui de la transition énergétique, ce qui nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler d'autoconsommation, de regarder où on en est sur le développement de l'autoconsommation en France, quels sont les chiffres, pour revenir un peu plus dans le détail sur le cadre qui est applicable à l'autoconsommation, les soutiens qui existent, les questions qui peuvent se poser, par exemple, d'un point de vue tarification réseau, et enfin, vous donner quelques exemples, quelques bonnes raisons pour lesquelles il est intéressant pour une entreprise de développer un projet d'autoconsommation individuelle, et ça permettra de faire le lien avec la suite de la présentation. Tout d'abord, définition. Donc, l'autoconsommation, elle est encadrée au niveau juridique, par des textes européens et par le cadre national. Au niveau européen, on a une directive, la directive qu'on appelle RED, donc sur les énergies renouvelables de 2018, qui a été refondue récemment et qui pose un cadre de développement pour l'autoconsommation et qui invite surtout les États membres de l'Union européenne à mettre en place un cadre national qui est favorable au développement de l'autoconsommation. Ce cadre, on l'a mis en place en France à travers différents textes depuis 2016. Et donc aujourd'hui, on retrouve la définition de l'autoconsommation individuelle dans le Code de l'énergie, à l'article L315-1. Et donc, on nous explique que l'autoconsommation, c'est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site, tout ou partie de l'électricité produite par son installation, la part de l'électricité produite qui est consommée, les soit instantanément, soit après une période de stockage. Et on nous dit un peu plus loin que l'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. Donc ici, on a plusieurs choses. Déjà, on voit qu'il y a des termes différents, autoconsommateur, autoproducteur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça désigne à peu près la même opération et qu'on va utiliser les termes de manière différente selon que l'électricité produite va être supérieure à l'électricité consommée sur le site. Mais de manière générale, l'autoconsommation et l'autoproduction, on va recouvrir le même type d'activité. Ici, on nous parle d'électricité. et surtout d'autoconsommation solaire. Donc c'est le cadre qui concerne l'autoconsommation d'électricité. Va y avoir des dispositions qui pourront concerner d'autres types d'autoconsommation ailleurs. On voit également, et je vous l'ai mis juste en dessous, hein, l'article 315-2 du Code de l'énergie définit l'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est l'autoconsommation individuelle, donc celle dans laquelle on a un acteur qui autoconsomme l'énergie qu'il a produite. Il faut avoir en tête qu'on peut avoir un autre type d'autoconsommation qui fera l'objet d'un webinaire dédié, hein, et donc dans laquelle on a plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs qui vont produire et consommer de l'énergie. Vous avez noté également, et c'est un point assez important, pour un autoconsommateur qui n'est pas un ménage, donc a fortiori pour une entreprise, l'autoconsommation ne peut pas constituer son activité principale. Et puis entre les deux, il est question de l'intervention de tiers, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça peut être une des modalités de l'autoconsommation. Et donc finalement, vous avez un petit schéma simplifié ici d'une opération d'autoconsommation dans laquelle on a une entreprise qui a une installation photovoltaïque éventuellement sur son toit. Donc elle produit de l'électricité, elle va consommer cette électricité produite pour elle-même. Éventuellement, et c'est optionnel, elle va pouvoir la stocker pour la consommer plus tard. Donc ça implique d'acquérir également un système de stockage. Et puis, donc ça c'est de l'autoconsommation totale, si jamais c'est seulement ce qui se passe, hein, que l'entreprise consomme toute l'électricité qu'elle produit, elle va pouvoir également ne pas tout consommer et se retrouver avec ce qu'on va appeler un surplus d'électricité. Et ce surplus, elle va pouvoir l'injecter sur le réseau public. L'injecter sur le réseau public d'électricité pour que ça aille alimenter d'autres consommateurs qui sont répartis sur ce réseau. Vous voyez également que l'entreprise va soutirer sur le réseau public d'électricité, elle va consommer de l'électricité. Il est assez rare, hein, que l'installation d'autoconsommation couvre à 100% les besoins d'un consommateur et donc d'une entreprise. Et donc on voit bien que l'entreprise reste raccordée au réseau électrique et que l'autoconsommation, c'est pas l'autarcie énergétique. Mais alors pourquoi est-ce qu'on nous parle d'autoconsommation? Qu'est-ce qui est intéressant au regard du contexte dans lequel on évolue? On est face aujourd'hui à une urgence climatique qui fait l'objet d'un consensus scientifique. Il y a une urgence à diminuer assez drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone, qui sont dues aux activités de l'homme, donc ce sont des émissions anthropiques. Et pour ça, on a pris un engagement en 2015 avec l'accord de Paris. Le monde s'est réuni, s'est mis autour de la table pour aller vers la neutralité carbone. Donc, c'est-à-dire qu'en 2050, on doit avoir des émissions nettes de dioxyde de carbone qui sont égales à zéro. Cet engagement, il s'est traduit dans plusieurs textes au niveau européen, au niveau français. Au niveau européen, c'est le Green Deal. Donc, c'est l'engagement de tous les États membres de l'Union pour aller vers la neutralité carbone, avec une étape intermédiaire à 2030. Donc c'est l'idée qu'on doit avoir une trajectoire qui est fixée avec des jalons qu'on puisse poser. Et donc c'était l'objet d'un paquet législatif qui a été voté récemment au Parlement européen, c'est le Fit for 55, au terme duquel nous devons réduire d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990. Et donc cet ensemble-là, il s'est traduit ensuite au niveau français. Au niveau français, on a plusieurs outils, plusieurs textes qui nous permettent de dessiner cette trajectoire vers la neutralité carbone. C'est la planification écologique et ce sont trois textes assez importants avec des acronymes qui peuvent paraître barbares. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et le PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc ce sont les outils dont on dispose pour faire cette trajectoire qui prônent le développement de la sobriété, de l'efficacité énergétique, l'électrification des usages et la production bas carbone, notamment des énergies renouvelables. Et donc l'autoconsommation, elle fait partie de ces outils-là, à tel point que dans la dernière PPE, qui doit bientôt être révisée, on a des objectifs en matière d'autoconsommation. On visait par exemple 200 000 sites en 2023. Donc l'autoconsommation, c'est un des outils de la transition énergétique. Où en est-on aujourd'hui dans le développement de l'autoconsommation en France? Donc, son développement a été assez timide à l'autoconsommation individuelle au début, après la mise en place du cadre qui permet aujourd'hui à l'autoconsommation de se développer. Il s'est accéléré au fur et à mesure, il s'est accéléré particulièrement ces dernières années avec des textes, des arrêtés de tarification, des modalités de développement qui sont venues faciliter l'évolution. Et donc tout ça nous a permis de dépasser en 2023 la barre des 400 000 installations et des 400 000 opérations d'autoconsommation individuelle, ce qui correspondait à plus de 2 gigawatts raccordés fin 2023. Donc cette évolution, elle peut aller encore plus loin, elle peut s'accélérer puisqu'il y a un potentiel fort de développement, et notamment au travers des dernières lois qui ont été votées, des obligations qui existent maintenant, il y a matière à pouvoir développer davantage l'autoconsommation en France. Je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu plus en détail les différents dispositifs qui existent pour permettre de développer l'autoconsommation. Alors, on va pas être exhaustif, mais c'est pour vous donner un peu une idée du panorama qui peut exister. On distingue deux types de soutien au développement de l'autoconsommation. On va avoir des soutiens qui sont plutôt directs, des soutiens publics directs, et des soutiens publics indirects. S'agissant des soutiens publics directs, ça va surtout être des modalités de contractualisation qui vont permettre à l'autoconsommateur d'obtenir un revenu pour l'électricité qu'il va injecter dans le réseau. Donc c'est d'abord la prime d'investissement à l'autoconsommation photovoltaïque, donc qui va être associée ensuite avec l'obligation d'achat, dans le cas où on est dans une opération de vente du surplus. Puisqu'au moment où vous faites votre projet d'autoconsommation, soit on est en autoconsommation intégrale, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on consomme tout, soit on consomme partiellement et on vend le surplus, l'électricité en plus dont on n'a pas besoin, on la vend en l'injectant sur le réseau. Ça, c'est un choix qu'il faut expliciter au moment de faire son projet d'autoconsommation, puisque ça va déterminer ensuite le type de régime d'aide ou le type d'aide auquel on est éligible. Donc cette prime, elle va dépendre effectivement de ce régime-là, hein, donc elle concerne les autoconsommateurs qui ont opté pour la vente du surplus. Elle concerne surtout des petites installations d'une puissance inférieure à 100 kW crête, et elle va être dégressive et variable en fonction de la puissance installée. Cette prime va donc pouvoir être couplée avec l'obligation d'achat, qui va représenter le principal type de soutien public direct au développement de l'autoconsommation. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place ce type d'obligation, enfin, ce type de contrat, l'obligation d'achat, l'électricité qui est injectée par l'autoconsommateur sur le réseau va être rachetée par un acheteur obligé. Donc ça peut être EDFOA, ça peut être les entreprises locales de distribution, en fonction de là où vous vous situez sur le territoire. Et elles vont vous racheter la totalité de la production qui est injectée sur le réseau à un tarif de rachat qui est fixé et qui va permettre donc à l'autoconsommateur d'être rémunéré pour la part qu'il a injectée sur le réseau. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a différentes modalités de fixation de ce tarif de rachat, notamment avec des arrêtés tarifaires qui vont venir fixer de manière périodique le montant de ces tarifs. L'autre type de soutien, c'est celui des appels d'offres. Les appels d'offres, donc, ça va consister à candidater pour un porteur de projet, candidater auprès des pouvoirs publics pour développer un projet d'autoconsommation, en contrepartie duquel on recevra un complément de rémunération. Dans cette situation, en fait, les lauréats d'appels d'offres, donc une fois qu'ils ont été sélectionnés, selon des modalités qui sont fixées par un cahier des charges, une fois que sélectionnés, les lauréats perçoivent un complément de rémunération qui correspond à un niveau qui a été demandé au moment de déposer la candidature. Et donc, si la personne est lauréate, si votre projet est lauréat, en fait, on va vous rémunérer, on va vous donner un complément qui va correspondre à la différence entre le prix de marché, qui est constaté au moment de la vente de votre électricité, et ce niveau de référence. Donc de la même manière ici, alors l'obligation d'achat, on a un tarif fixe qui correspond à l'électricité injectée. Dans le cadre du complément de rémunération, vous voyez bien qu'on est plutôt sur une fourchette et on vous redonne la différence entre un prix de marché et le tarif de référence. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le complément de rémunération qui est versé, il va porter à la fois sur la part autoconsommée et à la fois sur l'énergie qui est injectée dans le réseau. Donc deux types de soutien public contractuel, et puis un autre type que je voulais mentionner parce qu'ils sont présents aujourd'hui également, des aides par exemple de l'ADEME qui vont porter sur les études de faisabilité des projets, et donc qui vont pouvoir vous accompagner pour identifier la manière dont vous allez pouvoir mettre en œuvre votre projet d'autoconsommation. À côté des soutiens publics directs, on a des soutiens publics qu'on va qualifier plutôt d'indirects et qui vont surtout concerner la fiscalité. Donc de manière non exhaustive, et il faut préciser aussi que ces soutiens vont dépendre du statut fiscal du producteur, du montant du chiffre d'affaires qui est lié à la production, en l'occurrence photovoltaïque, et de la puissance de l'installation photovoltaïque. Donc ces aides, ça va être par exemple sur l'accise sur la consommation d'électricité qui a remplacé la TICFE, une des taxes qui était due sur la consommation d'électricité. Et donc, dans la situation où vous êtes en autoconsommation totale, vous allez avoir une exemption totale de cette taxe. Dans le cas où vous êtes en autoconsommation partielle, vous allez avoir un taux spécifique de 0 euro par mégawattheure, qui est appliqué sur la production autoconsommée. Et là, on est sur des installations qui sont d'une puissance installée inférieure à 1 mégawatt crête. On a également une disposition qui concerne la TVA avec un taux réduit de 10%. Là, ça va concerner surtout des très petites installations d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW crête. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, on a des soutiens directs et des soutiens indirects qui peuvent être associés pour permettre de faciliter et d'accompagner le développement de vos projets d'autoconsommation. Je vais être un petit peu plus rapide sur le TURP, simplement pour vous mentionner une spécificité qui existe aussi pour l'autoconsommation. Le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité que doit payer tout utilisateur du réseau, qui est fixé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, selon un certain nombre de principes. On va parler de péréquation tarifaire, par exemple, le fait que le tarif est le même partout sur le territoire, ou de timbre-poste, le fait qu'on ne va pas regarder la distance qui est parcourue par l'électricité. Donc ce tarif, il a différentes composantes que tous les utilisateurs payent pour permettre au gestionnaire de réseau de recouvrer ses coûts, d'investir dans le développement du réseau. Donc en tant qu'autoconsommateur, pardon, vous allez être redevable de ce tarif d'utilisation. Simplement, il va y avoir des composantes spécifiques qui sont prévues pour les autoconsommateurs, puisque l'autoconsommateur va être amené à injecter de l'électricité sur le réseau, et surtout il va être amené à en consommer, puisqu'il est toujours raccordé au réseau d'électricité, ce que je vous disais au début. Et donc, le TURP étant essentiel pour le fonctionnement du réseau, l'autoconsommateur va aussi contribuer à sa mesure au paiement de ce tarif. Finalement, quelques bonnes raisons pour développer un projet d'autoconsommation en entreprise, puisqu'il s'agit pour vous de contribuer à atteindre les différents objectifs qu'on a fixés au niveau national pour la transition énergétique, de participer au développement des énergies renouvelables en France. Mais c'est aussi pour vous une manière d'avoir une démarche RSE qui se veut ambitieuse, qui se veut volontaire. Et donc c'est une contribution concrète à la transition énergétique, en même temps que ça peut être un avantage pour votre réputation, pour votre image en tant qu'entreprise. C'est aussi pour vous l'occasion d'aborder plus largement la question de la décarbonation en entreprise. Ça va concerner la question du chauffage, la question de la mobilité avec les flottes de véhicules, par exemple. Et donc là, vous allez avoir des synergies entre le développement de l'autoconsommation et la décarbonation et l'électrification de vos usages. Si vous lancez un projet d'autoconsommation individuelle, ça va pouvoir être l'occasion d'électrifier une flotte de véhicules et d'alimenter votre flotte, en tout cas les bornes de recharge pour recharger les véhicules, via cette opération d'autoconsommation. Et puis, l'autoconsommation, ça permet également de réduire sa dépendance énergétique extérieure, de réduire sa dépendance aux fluctuations des prix de marché, et donc d'avoir une électricité renouvelable, décarbonée, consommée localement, et qui se situe en dehors de votre facture d'électricité. Donc, pour toutes ces raisons, l'autoconsommation, finalement, ça a un intérêt pour la transition énergétique et un intérêt direct aussi pour les entreprises.
Merci beaucoup, merci Oussama pour cette présentation très claire dans laquelle je vais tenter de m'inscrire assez rapidement. L'ADEME, c'est une agence publique, opérateur de l'État, en charge de la transition écologique et de la transition énergétique en France. Et à ce titre-là, l'ADEME accompagne en expertise les porteurs de projets, mais apporte aussi, comme cela a été évoqué par Oussama précédemment, des financements permettant d'accompagner la transition énergétique et de l'accélérer. J'évoquerai d'ailleurs dans mon propos des éléments relatifs comment dire, au cadre et des éléments à étudier en amont d'un projet d'autoconsommation. Et ce cadre-là s'appuie sur un outil qui est un cahier des charges que l'ADEME met à disposition des acteurs, hein, collectivités ou entreprises, pour bien dimensionner des projets d'autoconsommation énergétique. Et du coup, comme Oussama l'évoquait, on a des accompagnements financiers disponibles quand ces études d'autoconsommation énergétique sont réalisées. Ces crédits sont disponibles en se rapprochant des directions régionales de l'ADEME, puisque l'ADEME est organisée avec des services centraux que je représente aujourd'hui, mais également des directions régionales qui sont en charge du soutien opérationnel des projets. Voilà. Je vous invite à vous rapprocher des directions régionales, des zones d'implantation dans lesquelles vous vous situez pour mieux connaître les dispositifs de financement disponibles. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Oussama, je vais passer assez vite du coup sur les premières parties de mon intervention. L'autoconsommation collective était un phénomène très émergent il y a 6-7 ans, et on voit effectivement une accélération très forte des projets d'autoconsommation, et effectivement pas que chez les particuliers. Oussama a montré les chiffres, hein, sur l'année passée. On a eu plus de 1 gigawatt crête d'installation de modules photovoltaïques en autoconsommation. C'est effectivement considérable. Alors, c'est quand même à mettre en perspective par rapport aux trajectoires d'accélération souhaitées sur le solaire photovoltaïque, hein, qui varient en fonction des exercices de prospective, mais qui peuvent aller à plus de 100 gigawatts d'ici 2050. Donc, l'effort à faire est encore conséquent. Et la contribution des acteurs de l'entreprise est essentielle. Et on pense que l'autoconsommation dans le secteur de l'entreprise est à la fois bénéfique pour l'entreprise en elle-même, mais est également bénéfique pour l'atteinte des objectifs de la France en termes de trajectoire de décarbonation de son mix électrique. Les principaux moteurs, hein, que l'on identifie qui sous-tendent l'accélération de l'autoconsommation, hein, c'est la réduction, la sécurisation d'une partie de sa facture d'électricité, comme Oussama l'a très bien exprimé précédemment. Mais aussi, du coup, elle a un bénéfice non calculé, collatéral, on va dire, qui est celui de permettre de réduire les besoins de renforcement du réseau électrique, puisque du coup, les autoconsommateurs, comme ils vont profiter de la production à demeure, ont un bénéfice non estimé sur la réduction des besoins de renforcement des réseaux électriques. C'est ce qui explique notamment qu'on ait des calculs, des taxes affectées sur les autoconsommateurs qui soient adaptées au contexte de l'autoconsommation. Alors, on a beaucoup parlé de taux d'autoconsommation, de taux d'autoproduction. Du coup, je voulais juste peut-être les préciser. Le taux d'autoconsommation, c'est celui qui fait le rapport entre la production d'électricité photovoltaïque consommée sur site par rapport à la production d'électricité photovoltaïque totale. Ce taux d'autoconsommation, qu'on invite d'ailleurs à calculer et à estimer dans le cadre des études de faisabilité, permet d'identifier quelle est la part qui restera à injecter sur le réseau, et qui bénéficiera du coup des tarifs d'achat quand on a une injection du surplus. L'optimisation de ce taux d'autoconsommation, donc si on souhaite avoir un taux d'autoconsommation le plus proche de 100%, va avoir tendance à réduire les surfaces installées, puisqu'on va devoir du coup dimensionner son installation par rapport à la consommation du bâtiment sur les périodes, on va dire, de moindre activité. Le taux d'autoproduction, lui, c'est le rapport entre la production d'électricité consommée sur site par rapport à la consommation d'électricité totale du site. Et ça, c'est un élément déterminant, notamment quand on fait des analyses économiques sur la rentabilité des installations photovoltaïques mises en œuvre sur les bâtiments. On a donc là deux indicateurs qui sont essentiels et sur lesquels on demande du coup que les études de faisabilité les calculent. Mais en fait, on a souvent aussi un autre taux qui est affiché, qui est le taux de couverture solaire, qui représente la production d'électricité photovoltaïque totale par rapport à la consommation d'électricité totale du site. On a d'autres éléments que l'on invite à regarder dans les études de faisabilité, qui sont celles relatives à la puissance de l'installation, puisque du coup, l'électricité qui n'est pas autoconsommée sera injectée sur le réseau, et du coup, on a des capacités de réseau d'accueillir les productions. Et du coup, la puissance maximale injectée sur le réseau est également un élément qui doit être analysé dans les études de faisabilité pour s'assurer que le réseau ait les capacités d'accueillir cette puissance injectée. Et du coup, quand des conventions sont établies avec les gestionnaires du réseau de distribution, les informations relatives à la puissance maximale injectée sont des éléments qui sont demandés dans les conventions de raccordement. On conseille donc du coup d'effectuer des études de faisabilité rigoureuses. Alors, je vous ai mis du coup le lien vers le cahier des charges de l'ADEME, hein, qui est une sorte de canon ou de cahier des charges type sur lequel on demande aux acteurs de s'appuyer, mais il peut être évidemment modifié, sachant que au-delà des sujets d'une faisabilité technique, économique, d'un projet d'autoconsommation, on est aussi très attentif à ce que les actions de maîtrise de la demande de l'énergie soient intégrées dans ces travaux-là, notamment parce qu'ils peuvent influer sur les taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction que j'ai pu évoquer tout à l'heure. On a quatre grands éléments du coup de recommandations dans la réalisation et dans la faisabilité d'un projet d'autoconsommation. D'abord, c'est un travail assez conséquent sur la scénarisation des consommations électriques du site. On a une recommandation qui est d'élaborer un scénario de base de la consommation d'électricité du site qui va s'appuyer sur l'historique des relevés de consommation, mais qui va aussi du coup essayer de projeter les consommations à venir et notamment celles relatives au développement des flottes de véhicules électriques, la mobilité électrique arrivant à grands pas, y compris dans le secteur des entreprises. Il est intéressant d'avoir de la visibilité et de la projection sur l'évolution des flottes de véhicules électriques dans l'entreprise pour le dimensionnement de l'installation solaire photovoltaïque. Alors, on a sur cette première partie là, d'élaboration des scénarios de base une attention particulière sur les questions de saisonnalité en métropole plus particulièrement, puisque les courbes du coup de consommation pour des semaines types en période de fonctionnement normal ne sont pas les mêmes en fonction des semaines qu'on peut avoir en mode dégradé. On a aussi des questions de saisonnalité par rapport aux rigueurs climatiques, et donc plus particulièrement en métropole. Il faut que les scénarios de base de consommation d'électricité se fassent sur plusieurs saisons types. Alors, ce scénario de base, il va permettre d'évaluer des potentiels de surplus de production photovoltaïque qui seront ensuite utilisés dans les bilans économiques des opérations. Ce scénario de base, il doit être également associé à un scénario qu'on appelle un scénario optimisé MDE, donc maîtrise de la demande d'électricité. On a des trajectoires d'évolution de la consommation d'électricité qui doivent également s'inscrire dans des dynamiques de réduction des consommations, à la fois par des questions de sobriété, donc plutôt comportementales, mais également par des évolutions de l'efficacité des équipements et des process des sites sur lesquels les installations sont développées. Et du coup, ces scénarios, ces plusieurs scénarios d'optimisation de la consommation d'électricité doivent également être évalués, puisque notamment ces investissements supplémentaires peuvent être intégrés dans les analyses économiques des opérations. Enfin, on a un troisième scénario qu'on recommande, qui est le scénario d'évolution future des consommations électriques, puisque au-delà des évolutions à la baisse qui sont liées à la maîtrise de la demande, on a aussi potentiellement des modifications et des augmentations d'activité, des extensions de locaux, des changements d'équipements, voire ce que j'évoquais précédemment, l'acquisition de véhicules électriques dans le temps, qui peuvent faire évoluer la consommation et donc doivent être considérées au moment où on va travailler sur le dimensionnement de son installation. Alors justement, une fois qu'on a ces scénarisations de la demande, on va pouvoir travailler sur les éléments de dimensionnement, qui vont s'appuyer donc sur les courbes de charge et sur les appels de puissance du site, également sur les surfaces disponibles en toiture, mais également sur une évaluation des différentes masques et des ombres portées qui peuvent se faire sur l'installation. Ça va dépendre des données météorologiques, mais aussi, je l'évoquais tout à l'heure, des contraintes sur le réseau de distribution, puisque notamment les surplus qui doivent être injectés sur le réseau doivent répondre aux capacités d'accueil du réseau de distribution. Ces études d'implantation, du coup, elles vont permettre de travailler sur les différentes possibilités d'orientation, d'inclinaison des panneaux, des surfaces disponibles, mais également permettre de poser la question de l'opportunité du stockage d'énergie. C'est quelque chose d'optionnel, mais l'opportunité économique, notamment quand on a des contraintes de réseau, de consommer, de stocker une partie de sa production peut être intéressant. Donc de ne pas réduire les surfaces à installer quand on a des surfaces de bâtiments et des surfaces de toiture conséquentes. Donc ne pas diminuer les surfaces disponibles à cause de contraintes réseau peut être levé grâce à l'opportunité de mettre en place des dispositifs de stockage. Bon, je passe là-dessus. En fait, sur l'étude de faisabilité, on a aussi la possibilité de rendre un peu visible les rapports entre la production et la consommation sur différentes journées types, sur des journées types de pointe de production, donc des journées très, très ensoleillées, ou sur des journées types d'injection de l'électricité sur le réseau. Voilà, ces calculs de taux d'autoconsommation et de taux d'autoproduction vont servir à la quatrième étape, qui est celle du dimensionnement ou de l'analyse économique des projets. Quand on fait un projet et quand on analyse économiquement, il est important de considérer les dispositifs de soutien et de financement. Hein, donc Oussama les a précisés précédemment, je n'y reviens pas. Je précise juste que les soutiens publics, notamment de l'ADEME, ne sont que sur les études de faisabilité. Il n'y a pas d'aide à l'investissement, ni d'aide au fonctionnement des installations photovoltaïques. Elles doivent trouver leur rentabilité propre et leur rentabilité intrinsèque sans financement de l'ADEME. Mais par contre, il y a besoin parfois de mettre le pied à l'étrier pour financer les études de faisabilité. C'est pour ça qu'on a un dispositif de financement ad hoc. On a un certain nombre de coûts d'investissement à réaliser, mais également sur les coûts d'exploitation. Du coup, dans le détail de la présentation et du cahier des charges, l'ensemble des détails des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation, ils sont détaillés. Je n'y reviens pas aujourd'hui, ça serait certainement un petit peu long. L'analyse économique, elle doit aussi regarder l'augmentation du prix de l'électricité. Alors on peut faire une analyse dégradée à coût d'électricité constant et du coup on sous-estimerait le temps de retour sur investissement, mais on doit considérer sur différents scénarios l'évolution du prix de l'électricité. C'est un élément clé du calcul de la rentabilité d'un projet d'autoconsommation. Et du coup, on a dans nos cahiers des charges quelques trajectoires sur des hausses modérées ou des hausses soutenues du prix de l'électricité. Ces analyses de sensibilité, elles sont assez faciles à faire et d'ailleurs, on recommande les chefs d'entreprise, quand ils réalisent ce type d'études, d'être force de proposition aussi par rapport aux hausses vécues et hausses projetées des coûts de l'électricité pour adapter du coup ces analyses économiques à la réalité rencontrée par les entreprises qui les réalisent. Voilà. Oussama l'a évoqué, donc je ne le précise pas, hein, mais du coup, ces calculs sur les économies de facture, elles prennent en compte les parties variables du prix du kilowattheure et notamment l'exonération d'un certain nombre de taxes qui ont été présentées précédemment. Voilà. Ces analyses économiques, elles doivent aussi tenir compte d'une variable qui peut jouer, puisqu'on est sur des investissements et sur des équipements qui ont des durées de vie très très longues, ce qu'on ne l'a pas évoqué précédemment, mais une centrale photovoltaïque peut avoir une durée de vie supérieure à 25 ans, voire 30 ans, hein, les modules en tout cas. Et du coup, dans l'analyse économique, on tient compte de l'augmentation du prix de l'électricité, on doit aussi tenir compte des évolutions des rendements des équipements, puisque ces équipements ont aussi des réductions des rendements, mais qui sont quand même très très limitées sur la période de vie. D'ailleurs, ces rendements sont garantis dans la majorité des cas par les fabricants.
Je vais poursuivre du coup le propos. Donc, David Gréau, moi je suis délégué général d'Enerplan en charge du photovoltaïque c'est peu dire que côté Enerplan, on suit ce sujet de l'autoconsommation depuis très longtemps. On organise tous les ans une université dédiée à l'autoconsommation photovoltaïque. On en est à la 7e édition. On avait fait 2 éditions de colloques nationaux avant, donc ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on suit le sujet avant même qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit posé. Ce cadre réglementaire a été posé en 2017. Donc auparavant, la notion d'autoconsommation n'était pas, comme c'était rappelé, dans le code de l'énergie, ça n'existait pas officiellement, l'autoconsommation. Donc ça ne fait finalement que moins de 7 ans qu'on a une définition et qu'on peut parler d'autoconsommation. Donc, pour dire très vite qui on est et d'où je parle, donc Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire qui a fêté l'année dernière ses 40 ans. Donc on a un peu d'antériorité sur les questions solaires. Ça fait 40 ans qu'on les travaille, on s'intéresse à tous les solaires, donc thermiques et photovoltaïques, mais on s'intéresse qu'aux solaires. Et on représente des entreprises du secteur, un peu plus de 350 entreprises, qui sont sur toute la chaîne de valeur du solaire et des solaires. Alors, je vais pas m'apesantir sur ces courbes, elles ont déjà été présentées par Oussama. Simplement peut-être répondre par anticipation à une question, quelle est la part des entreprises en fait. J'ai pas la part des entreprises, en revanche, sur les 440 000 installations, il y en a un peu plus de 3 000 qui sont au-dessus de 36 kW. Donc au-dessus de 36 kW, on préjuge que ce sont des installations professionnelles ou des collectivités locales. Donc, ce qui veut dire que c'est une très grosse majorité, presque 99% qui sont le fait de particuliers aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est en dynamique. Parce qu'en fait, si on est aujourd'hui à 440 000 installations, et c'est la slide d'après, hein, on a installé un peu plus d'un gigawatt crête cette année, finalement, ça veut dire c'est aussi parce qu'on a installé l'année passée 200 000 installations. On a quasi doublé le nombre d'installations en autoconsommation l'année passée, et on avait déjà doublé l'année d'avant quasiment ce qu'on faisait. Donc je ne dis pas qu'on en fera 400 000 nouvelles cette année, c'est un peu le challenge peut-être qu'on peut se donner, mais globalement on est un peu sur cette dynamique-là. Il faut savoir aussi qu'en termes d'autoconsommation, on parle de très loin. Il y a une époque où je projetais ces courbes, au moment où on était à 100 000 installations en autoconsommation en France, en se disant la dynamique décolle, ça explose, C'est magnifique. Et je regardais ce que faisaient nos voisins. Je regardais notamment, alors, je ne vais pas prendre l'Allemagne parce que l'Allemagne est un exemple qui est pas trop décrié, mais en prenant la Belgique. Belgique, c'est bon an, mal an, la population des Hauts-de-France et l'ensoleillement des Hauts-de-France. Donc c'est quand même pas la région la plus ensoleillée de France. Ils avaient à ce moment-là 500 000 autoconsommateurs. On était à 100 000. Voilà, avec un territoire beaucoup plus grand et beaucoup plus ensoleillé. Donc on a de la marge. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que je ne sais pas si on fera 400 000 cette année en autoconsommation, mais en tout cas, on a de la marge, et notamment du côté des professionnels. On a un vrai décollage qui est en train de se faire. Décollage pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ça a été expliqué. On a une hausse des prix de l'électricité qu'on a connue. Alors, il faut faire attention à la conjoncture qui peut être mauvaise conseillère. Il faut regarder le temps long, et ça a été rappelé par Stéphane tout à l'heure. Il faut regarder le temps long et faire des projections c'est quoi le coût de l'électricité à l'échéance qui m'intéresse et à l'échéance où j'aurai rentabilisé mon investissement. Et donc, il faut aussi dire que le métier d'installation photovoltaïque a quand même beaucoup évolué avec l'autoconsommation. Auparavant, on avait un métier qui était un métier de technique simple, on va dire. Je regarde de combien d'espace est disponible sur le toit ou au sol. Je regarde ce que je peux installer. Je fais un optimum technico-économique au vu du prix auquel je vais vendre, puisque je vais tout vendre sur le réseau. Et je fais un investissement. Là, aujourd'hui, on raisonne autrement. On a des professionnels qui doivent raisonner avec cette hausse des prix de l'électricité, avec les courbes de consommation du bâtiment et de l'activité qui est en dessous, et avec cette capacité aussi qui est possible sur le toit. Donc ça peut amener parfois à des sous-dimensionnements, comme ça a été dit, hein, de dire on dimensionne au plus juste pour le besoin de l'entreprise ou du ménage ou de la collectivité, mais ça veut dire aussi qu'on adapte au plus juste du besoin de consommation, et donc on a un investissement qui est raisonné par rapport à cette optique de maximiser le taux d'autoconsommation et de dire de tout ce que j'ai produit, j'en ai consommé 90%, j'en ai rejeté très peu, ou alors j'ai tout consommé, si c'est le but, éventuellement avec un stockage intermédiaire, ça a été dit, ça n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, c'est encore dans beaucoup de cas très onéreux, mais la courbe d'apprentissage du stockage suit à peu près celle du photovoltaïque avec une dizaine d'années d'écart, donc on peut s'attendre à une baisse dans les années à venir des coûts du stockage. Et par ailleurs, on a un stockage qu'on sous-estime encore, je pense, aujourd'hui. On le voit plutôt comme un pôle de consommation aujourd'hui que comme un pôle de stockage. C'est celui de la mobilité électrique. La mobilité électrique, finalement, si on reprend les choses froidement, c'est quoi? C'est une batterie, un petit moteur, quatre roues et un volant, avec des engins qui sont immobiles 90% du temps. Et donc qui, 90% du temps, soit peuvent recevoir l'électricité photovoltaïque, soit peuvent la restituer au bâtiment ou au réseau. La vraie révolution de la R5 de Renault qui arrive à l'automne, ce n'est pas tant d'avoir fait de la nostalgie avec une bagnole des années 70, remise au goût du jour, électrifiée, etc. Il y a ça, certes, mais c'est aussi en série de proposer une infrastructure de recharge qui sera bidirectionnelle. C'est-à-dire que la voiture sera certes consommatrice, elle utilisera de l'électricité pour rouler, mais elle sera aussi stockeuse d'électricité et pourra la restituer au bâtiment, donc à l'activité économique ou au réseau, le cas échéant. Donc cette question de la hausse des prix de l'électricité et de l'anticipation des marges qu'on a à faire vers l'électrification est extrêmement importante. Je rappelle un chiffre qui n'a pas été encore cité, qui est un chiffre très macro, hein, qui est celui de RTE. On a besoin de baisser de 30% notre consommation énergétique à horizon 2035. Mais c'est 30%, par contre, on a besoin de faire plus 40% d'électrification. Et donc, l'un dans l'autre, en fait, on va consommer beaucoup moins d'énergie et notre cible principale est beaucoup moins de fossiles, et donc beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais en parallèle, on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Et cette électricité, aujourd'hui, on a des moyens carbonés qui permettent d'y répondre. Et ça, il faut aussi en sortir. Et on a des moyens décarbonés qui permettent d'y répondre, mais donc qu'il va falloir amplifier. Et dans ces moyens décarbonés à amplifier, ce qui est le plus rapide à mettre en œuvre pour nos besoins d'électricité, c'est les énergies renouvelables et au premier titre desquelles le solaire qui permet aussi de s'installer directement au plus près du lieu de consommation. Et donc, c'est un peu les objectifs qui ont été rappelés par Oussama tout à l'heure. J'en profite juste du coup pour glisser deux aspects qui pour moi sont importants. Il y a un aspect d'ambition industrielle. C'est rappelé notamment par un entrepreneur autoconsommateur qu'on a fait témoigner lors d'une université de l'autoconsommation récemment, hein, qui dit qu'il n'y aura pas d'accroissement de l'activité industrielle si on n'a pas une maîtrise des coûts de l'électricité, et qui lui-même a fait une installation en Normandie, hein, pour son entreprise d'autoconsommation solaire. Vous pourrez retrouver assez facilement son témoignage en vidéo sur le site d'Enerplan, et du coup a fait une installation sur Tracker. Parce que c'est ça aussi, c'est que le fait de vouloir autoconsommer nous amène aussi à réfléchir autrement la production et à ne pas avoir une orientation plein sud pour avoir un pic de production à un instant T, mais éventuellement d'avoir des installations qui seraient en est-ouest, de manière à capter la course du soleil par des installations fixes, hein, en est-ouest pour capter la course du soleil plus longtemps sur la journée, peut-être moins produire en instantané, mais couvrir plus longtemps sur la journée les besoins d'électricité, ou alors d'avoir des trackers, donc des dispositifs mobiles qui permettent de suivre la course du soleil et qui peuvent quasiment multiplier par deux la production solaire. Et donc cette ambition industrielle, elle passe aussi par l'industrie du photovoltaïque. Et ça, je pense que c'était important de le rappeler aujourd'hui, c'est qu'on a, on a des acteurs industriels qui produisent aujourd'hui sur le territoire des modules photovoltaïques, qui produisent tous les composants d'une centrale. On a tendance à voir le module comme étant l'emblème du photovoltaïque, et c'est très bien, mais une centrale, ça n'est pas que des modules, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut aussi des onduleurs, il faut aussi des câbles, il faut aussi plein de choses. Et donc, on a aujourd'hui des entreprises industrielles du photovoltaïque qui, pour certaines, tirent un peu la langue, ont du mal, hein, face à la concurrence chinoise, il faut le dire. Mais on a aussi des gros projets, et notamment deux projets de Gigafactory, une dans l'est de la France et une dans le sud, à Fos-sur-Mer et du côté de Sarreguemines, avec deux gigafactories. Quand je dis gigafactory, ça veut dire 10 gigawatts annuels de modules produits par ces deux usines, plus le petit gigawatt des autres acteurs qui sont déjà sur le territoire. Donc ça nous amènerait à un peu plus de 11 gigawatts produits sur le territoire français. L'année dernière, on a battu un record qui doit être l'étiage, hein, on le battra, je l'espère, tous les ans, mais on a battu un record, on a installé un peu plus de 3 gigawatts sur le territoire. Donc c'est pour vous donner un peu les perspectives qui sont devant nous. On a des usines qui vont produire 10 gigawatts de modules, on en a installé 3 l'an passé, on a une ambition qui nous amène à pousser à 7, entre 5,5 et 7, nous dit le gouvernement. Nous, côté Enerplan, on pousse plutôt entre 7 et 10 gigawatts par an, et de viser le fait d'avoir avancé cet objectif de Belfort qui était 100 gigawatts en 2050, l'avancer de 15 ans et l'atteindre en 2035, de manière à pouvoir rencontrer nos objectifs. Et donc, pour donner encore quelques chiffres et venir rapidement sur la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, on a, ça c'est un état des lieux aujourd'hui de notre potentiel. On a environ 20 millions de bâtiments sur le territoire métropolitain. Je ne compte pas dans ces 20 millions ce qu'on appelle en langage électrique les ZNI, ou en langage administratif les territoires d'outre-mer. On a un peu moins de 36 000 communes. Et on a aujourd'hui environ 1,5 million de véhicules électriques, mais on a une perspective d'avoir une interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035. Donc un besoin d'électricité encore accru. Et donc toutes ces perspectives-là nous amènent à quoi ? Ont amené le gouvernement à quoi ? Ils l'ont amené à modifier le signal qui est donné pour l'autoconsommation. Quand je dis modifier le signal qui est donné, c'est-à-dire que on était auparavant sur une logique d'incitation. Allez-y, c'est intéressant, d'une certaine manière, avec des aides qui ont été rappelées avant, hein, une aide au surplus, une aide parfois en dessous de 100 kilos, avec des primes versées en une fois en fonction de la puissance de l'installation. Mais on passe désormais sur une logique, depuis 2021 et encore plus depuis 2023, sur une logique d'obligation. Parce qu'en fait, il paraît naturel que les bâtiments et que les zones artificialisées soient solarisées. C'est en tout cas la démarche qui a été prise par le gouvernement. Et donc, 2021, premier signal, porteur de projet d'un nouveau bâtiment, j'exclus les bâtiments résidentiels, mais en gros tous les autres bâtiments que les bâtiments résidentiels, ou d'un nouveau parking, vous serez obligé de solariser ces nouveaux espaces. Ça, c'est 2021, on a eu en octobre dernier les textes d'application. Et en mars 2023, et on devrait avoir là rapidement les textes d'application, en mars 2023, dans la loi d'accélération, on change un peu de logique, on passe d'une logique de flux, où on prend les nouveaux, à une logique de stock, où on s'attaquait à tous ceux qui sont déjà qui sont déjà sur le territoire. Donc tous les parkings existants et tous les bâtiments existants hors résidentiel. Et donc il est vraisemblable que pour vos locaux d'entreprise, vous soyez tenu de devoir solariser soit le parking s'il fait plus de 1500 m², soit le bâtiment s'il fait plus de 500 m². Et donc la question se pose désormais différemment à partir du moment où c'est obligatoire, entre guillemets. Il y a des échappatoires. Si c'est économiquement infaisable, si l'architecte des bâtiments de France s'y oppose, voilà, il peut y avoir tout un tas de justifications pour ne pas faire. Mais on va se poser la question autrement si on doit faire, la question qu'on va se poser, c'est « Ok, je vais produire de l'électricité demain sur mon toit, je vais produire de l'électricité sur mon parking. Qu'est-ce que je vais faire de cette électricité ? Quel est l'intérêt pour moi ? Est-ce que l'intérêt pour moi, c'est de tout mettre sur le réseau, de tout vendre ? Et d'avoir un modèle économique qui se tient avec cette vente d'électricité sur le réseau, éventuellement répondant à un appel d'offres si mon installation est de grande taille. Est-ce que je vais avoir intérêt à en consommer une partie pour moi-même, donc à faire de l'autoconsommation et à vendre seulement le surplus, parce que j'ai des consommations électriques. Et puis après, le step d'après, mais peut-être que vous y reviendrez dans un webinaire ultérieur, c'est ce surplus, une fois que j'ai autoconsommé pour moi-même, ce surplus, est-ce que j'ai intérêt à le partager avec mes voisins ? Et du coup, à passer par une opération d'autoconsommation collective pour aller au-delà et sur ma zone économique, ma zone artisanale, partager cette électricité que j'aurais produite pour moi-même, initialement, avec mes voisins qui ont aussi des besoins. Donc ça, c'est un peu le step d'après, si j'ose dire, qui résulte finalement de cette obligation, puisque cette obligation, elle dit quoi ? Elle dit « vous allez devoir solariser ». Et dès lors, la question, c'est une fois que j'ai solarisé, qu'est-ce que je fais de cette électricité ? Donc je me pose cette question complètement autrement, et donc on passe d'une logique de pionnier à une logique de chaque bâtiment doit être producteur demain, chaque parking devra être producteur demain, et donc on va réfléchir à son usage, comme le disait Stéphane tout à l'heure, hein, des questions importantes à se poser, c'est quoi ma consommation, c'est quoi le besoin que j'ai d'électricité, c'est quoi mes pics de consommation, est-ce que j'ai intérêt à avoir un pic de production le 15 août quand tous mes salariés sont en congé et que j'ai arrêté l'activité de l'entreprise ? Et sinon, qu'est-ce que je fais de l'électricité ce jour-là ? Enfin, voilà, c'est tout un tas de questions comme ça qu'on doit se poser. Mais c'est des questions qui sont nécessaires et qui amènent finalement à passer de cette obligation subie à une opportunité de baisser ses factures, ça a été dit. Aussi, au-delà de baisser ses factures, d'acheter de la stabilité. Je pense que c'est ça qui est très important, c'est qu'on a un marché de l'électricité qui aujourd'hui donne des signaux plutôt en baisse, en stabilisation à la baisse par rapport à des très hauts connus l'année passée et puis en 2022, mais qui ne doit pas faire oublier de regarder les choses sur le temps long. Et la vie des entreprises, la vie des collectivités locales, c'est aussi de prévoir le temps long, c'est aussi d'anticiper des hausses de consommation d'électricité, que ce soit pour la mobilité ou pour le process de fabrication ou les usages nouveau, et donc finalement d'arriver à cette année à avoir ces incitants politiques, ces signaux économiques qui fassent passer le pas. On a un dispositif de soutien, qui est un dispositif qui fonctionne aujourd'hui, qui est relativement simple, notamment pour des petits projets. Quand on va en appel d'offres, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a des entreprises qui savent très bien faire ça, qui sont les adhérents d'Enerplan notamment, qui sauront vous conseiller. Mais en tout cas, il y a des dispositifs de soutien qui existent, qui sont essentiellement des dispositifs de réassurance, qui vous permettent de dire, le jour où vous ne consommez pas, vous aurez un modèle économique, ça ne sera pas un investissement à perte. Mais vous aurez quand même tout intérêt à mieux consommer et à déplacer éventuellement soit en stockant, à déplacer votre production vers un autre moment de consommation, soit à déplacer votre consommation au moment de la production et brancher vos véhicules électriques au moment où les panneaux produisent. Et c'est tout ça qui a intérêt, qui amène finalement à un cercle globalement vertueux avec des signaux économiques qui sont au rendez-vous, des incitations politiques qui existent pour aller autoconsommer et qui doivent aussi vous amener potentiellement pour ceux qui sont concernés, qui doivent vous amener à pouvoir, par exemple, répondre aux obligations du décret tertiaire. Un décret tertiaire impose de réduire ses consommations d'énergie en fonction d'une facture de référence par rapport à une facture ultérieure. Et donc, finalement, l'autoconsommation individuelle n'étant pas facturée, amène à une baisse de facture de facto, et donc amène à contribuer, ça ne répondra pas à tout, mais ça amène à contribuer à l'atteinte de ces objectifs.
Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces remarques. Je pense qu'ils sont très utiles et qui permettent vraiment de cadrer là où on en est aujourd'hui dans l'autoconsommation individuelle, la dynamique très positive avec un cadre qui est de plus en plus clair et incitatif, et donc un rôle pour l'autoconsommation qui, bien sûr, n'existait pas il y a 10 ans, qui devrait prendre de l'ampleur au fur et à mesure donc on avance dans les enjeux de décarbonation et d'électrification, et auxquels les entreprises seront de plus en plus associées. On a reçu un certain nombre de questions. Une première peut-être générale quand même. Donc on a vu donc le cadre commence quand même à se mettre en place, à être de plus en plus complet. Qu'est-ce qui explique au final que les entreprises aient eu ce retard au démarrage sur l'autoconsommation par rapport aux ménages, et est-ce qu'il y a des barrières encore à traiter dans les années à venir?
Le développement de l'autoconsommation collective dans les entreprises, il est quand même lié à l'opportunité économique de faire ces investissements. Et du coup, il est lié aux tarifs auxquels les entreprises accèdent à l'électricité dans chacun des pays concernés. Et du coup, il est sûr que le moment où la production d'une centrale photovoltaïque a été concurrentielle avec l'augmentation du prix de l'électricité n'est pas le même qu'on soit en Allemagne, en Belgique ou en France, puisqu'on a des trajectoires d'évolution du prix de référence de l'électricité qui sont différents. Donc je dirais en première réponse, mais elle est certainement à compléter, il y a les sous-jacents économiques, notamment du prix de l'électricité évité, parce que la production solaire a permis du coup de répondre à une partie de ses besoins.
Et peut-être pour compléter, pour un certain nombre d'entreprises, pendant longtemps, la question du prix de l'électricité n'était pas vraiment un facteur extrêmement important du business model. C'est-à-dire que c'était une commodité, c'était un prix fixe garanti par l'État, et finalement on est arrivé sur un prix de l'électricité qui est entré pour les entreprises dans une logique de marché, de plus en plus, avec une bonne partie des entreprises qui n'ont plus accès à un tarif garanti aujourd'hui par l'État en tarifs réglementés de vente, et qui ont vu aussi conjoncturellement leurs factures exploser, des fournisseurs revenir vers eux en disant ben, « on renégocie le contrat pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, et puis voilà, je t'annonce la hausse que je vais appliquer, au contrat qui va nous lier pour l'avenir ». Et donc finalement, cette dépense qui en était une, qui était une composante de l'entreprise, mais qui n'était pas importante dans le process, l'est devenue. Et donc la considération de est-ce que j'ai intérêt à investir pour l'avenir et pour m'acheter de la stabilité sur le prix de l'électricité que j'aurai à terme, finalement ne se posait pas auparavant, puisque ce n'était pas forcément intéressant, vu comme intéressant, et se pose désormais. Et après, il y a aussi le cadre réglementaire qui a évolué. En 2021, l'arrêté tarifaire, donc le guichet ouvert, ce qu'on appelle le guichet ouvert, qui amène finalement une simplicité sans avoir une procédure concurrentielle d'appel d'offres. J'ai un projet, je suis éligible, j'ai droit à un tarif, a été augmenté de 100 kW crête à 500 kW crête. Et donc finalement, tout ce volant entre 100 et 500 kW crête, c'est typiquement le type de toiture ou d'ombrière qui répond aux besoins des entreprises. Alors pas des très grandes entreprises, mais aux besoins des entreprises, notamment des agriculteurs par exemple. Sur des hangars agricoles, c'est typiquement ce type de puissance qu'on va retrouver.
Une petite question pour Oussama. Dans le cas d'une autoconsommation totale, qu'en est-il du paiement du TURP au final?
Alors, le TURP, il est payé par tous les utilisateurs qui sont raccordés au réseau d'électricité. Donc même quand j'ai une installation d'autoconsommation et que je consomme toute l'électricité, je vais être redevable du TURP pour ce qui concerne l'électricité que je consomme depuis le réseau. Ce que je vous disais tout à l'heure, a priori, et a fortiori dans le cadre d'une entreprise, on n'aura pas d'autarcie énergétique avec une installation d'autoconsommation qui va permettre de couvrir tous les besoins d'électricité. Donc il y aura du TURP qui sera dû sur ce que vous allez soutirer au réseau public. En revanche, pour la part que vous autoconsommez, il n'y aura pas de TURP dans ce cas-là.
Et donc, lorsqu'on parle réseau, on parle aussi donc gestionnaire de réseau. Quel est leur rôle finalement dans l'encadrement ou la promotion de l'autoconsommation?
Alors, les gestionnaires de réseau, déjà, ils ont une obligation légale de faciliter le développement des projets d'autoconsommation. Ensuite, effectivement, ils vont accompagner les projets dans le sens où il y a une relation contractuelle entre le porteur d'un projet d'autoconsommation et le gestionnaire de réseau. Et il va avoir un rôle dans la gestion des flux, dans la comptabilisation des flux pardon, qui sont injectés sur le réseau, ce qui est soutiré. Et tout ça, ça va se passer notamment à travers le compteur communicant. Aujourd'hui, on a déployé massivement en France les compteurs Linky, compteurs communicants, qui permettent justement de faciliter ce partage d'informations avec le gestionnaire de réseau. Donc le gestionnaire de réseau, effectivement, est un acteur important du développement de l'autoconsommation en France. Et il y a des évolutions qui sont intervenues. On parlait de cadre réglementaire. Il y a aussi pas mal de simplifications qui ont été faites au niveau des démarches et du partage d'informations avec le gestionnaire de réseau, qui permettent aujourd'hui de faciliter un peu plus la relation avec lui et donc le développement des projets.
Et juste pour compléter, peut-être en termes pratiques, hein, le gestionnaire de réseau, dans le cadre notamment du guichet ouvert, il joue le rôle de guichet unique. Et donc c'est auprès de lui que le futur producteur va amener toutes les pièces, y compris celles qui vont amener à contractualiser après avec l'acheteur obligé. Et donc finalement, c'est aussi une simplification, c'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur au moment du montage du projet qui est le gestionnaire de réseau, parce que c'est lui qui est le réceptacle de tout ce qui va servir à l'ensemble du projet jusqu'au bout, même si ce n'est pas lui le responsable à la fin de la signature du contrat.
Une question pour l'ADEME. Quel est le retour d'expérience sur les études de faisabilité et donc sur les besoins des entreprises à ce niveau-là?
C'est une bonne question. On n'a pas évalué le taux de passage à l'acte entre des entreprises ayant réalisé les études de faisabilité et ce qui se réalise pleinement. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Hormis le fait que cet outil là qu'on met à disposition là, le cahier des charges type est très 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 téléchargé, donc il doit à minima intéresser. Mais effectivement, j'ai pas d'information sur le taux de passage à l'acte après la réalisation des études.
Et peut-être une question d'ouverture. Je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions. Est-ce que l'autoconsommation, elle repose sur une chaîne de valeur européenne ou il y a un risque que ce soit phagocyté par les acteurs chinois du
pays ? Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. Si on regarde les modules, aujourd'hui, plus de 90% des modules sont chinois. Il y a plusieurs éléments d'avancée. Il y a les gigafactories que j'évoquais tout à l'heure au courant de la présentation qui vont commencer à produire des panneaux en 2026. Il faut le temps de monter les usines et qu'elles commencent à produire. Mais a priori, les deux, que ce soit Holosolis ou Carbone, ont prévu des débuts de commercialisation des premiers modules en 2026. Maintenant, il ne faut pas casser le marché en attendant. C'est-à-dire que si on veut que ces projets industriels, rien que Carbone, c'est 1,5 milliard d'euros à mettre sur la table pour monter l'usine. Donc, si on veut que les projets industriels se fassent et qu'il y ait une réindustrialisation des modules, savoir-faire qu'on a perdu depuis 15 ans, on a laissé la main depuis 15 ans à l'industrie chinoise. Donc, si on veut retrouver ce savoir-faire et réindustrialiser, il ne faut pas casser le marché maintenant, sinon, évidemment, ils n'iront pas faire l'investissement. Donc, mais après, au-delà, la question est légitime et elle a été d'ailleurs posée par les acteurs, par exemple, du monde de la grande distribution, avec ses obligations sur parking, où ils disaient, nous, on veut bien faire. Et on voudrait faire au mieux, laver plus vert que vert, et donc mettre en œuvre que des modules français ou que des modules européens. Mais on n'a pas suffisamment pour répondre à la demande aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc ils ont obtenu des délais. L'obligation est la même que pour tous en termes de délai. En revanche, s'ils apportent la preuve qu'ils ont contractualisé c'est pas que la grande distribution, c'est tous les propriétaires de parking ou délégataires, si on apporte la preuve qu'on a contractualisé pour mettre en œuvre des panneaux à forte résilience, etc. Je ne sais plus quel est le vocable utilisé exactement, mais en gros, ça correspond à ce qu'on pudiquement on cache derrière. En fait, on veut des panneaux français ou européens. On a un délai supplémentaire pour répondre à l'obligation qui est faite. Voilà, donc, on a un gros enjeu de réindustrialisation et qui doit passer par une grosse dynamique aussi d'installation.
Donc, ce webinaire, il ouvre en fait une série de webinaires qu'on organisera au cours de l'année et où vous serez tenus au courant au fur et à mesure sur l'autoconsommation toujours, notamment collective, et sur d'autres sujets et enjeux liés à la flexibilité au niveau des consommateurs et des entreprises, notamment stockage, véhicules électriques, on en a un petit peu parlé.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.